serait une plateforme d'action et qui traite de la question corps par rapport à la ville qui a commencé dans les séminaires à Salvador, Bahia, qui s'appelait également Corps-Ville, Corpo-Cidade. En octobre dernier, Jean-Paul et quelques-uns des Français étaient présents à l'occasion. Et ça a eu lieu juste après le séminaire de Grenoble sur les ambiances. Je pense que le groupe peut contribuer pour le développement des idées et rendre plus complexe et problématiser les thèmes liés à l'ambiance. Je voudrais donc commencer par dire notre position. Et quand je dis cela, je me réfère à une position sur laquelle nous avons commencé à travailler dans cette rencontre Corps-Ville, Corpo-Cidade, qui est partagée par plusieurs des participants d'aujourd'hui. Et notre position est basée sur trois piliers. Première étant une critique aux villes d'aujourd'hui, et où il y a cette idée de scénographie, un éloge de l'expérience corporelle dans les villes, ce que nous avons appelé corpographie, qui peuvent être considérées comme étant de micro-résistance à ce processus de micro-spectacularisation de la culture des villes et des corps. Et finalement, la possibilité d'être considérée que cette expérience sensible quand il étant une forme active et critique de micro-résistance à là ou dans l'espace public. Et là, je voudrais ouvrir des parenthèses pour vous parler un peu plus de cela que j'appelle la spectacularisation des villes, parce que dans les premiers jours de ce colloque, ça n'a pas été établi très clairement dans mes présentations. Et ce que j'appelle spectacularisation urbaine est un processus qui se voit de plus en plus explicite dans les villes. Nous voyons des villes-musées, des villes-parcs thématiques, des villes-shopping malls, en d'autres mots, des villes-spectacles, dans le sens donné par Guy Debord. Et cette formule commence à être présente dans tous les discours contemporains, un peu schizophréniques, avec des propositions de préservation des centres historiques qui deviennent des réceptacles publics, pour ainsi dire, pour les touristes, et la construction de nouveaux quartiers fermés et de centres d'achat, d'un centre shopping malls qui deviennent des produits de spéculation immobilière qui sont tout à fait fermés. Et très souvent, les parrains et les acteurs de ces propositions sont les mêmes, et il y a une non-participation de la population dans ces formes générales, et il y a la gentrification, autrement dit, on anoblit, disons, les couches des gens plus pauvres de la population. Alors ces deux courants apparemment antagoniques sont en fait les deux faces d'une même pièce, c'est la mercantilisation spectaculaire des villes. On peut donc parler de processus urbain distinct, comme la culturalisation, la patrimonialisation, autrement dit le classement, la muséalisation, la gentrification, la touristification. Tout cela fait partie d'un même processus contemporain qui est plus vaste que celui que j'appelle de spectacularisation des villes contemporaines. Ce processus, à son tour, ne peut être dissocié de nouvelles stratégies de marketing ou de ce que l'on appelle aujourd'hui de branding urbain, qui est cette construction de marketing des projets de revitalisation urbaine qui cherchent à construire une nouvelle image des villes contemporaines pour leur assurer une place dans cette nouvelle géopolitique des réseaux mondialisés des villes et des centres culturels, en suivant cette logique contemporaine de consommation urbaine massifiée. Et l'ambiance passe également, commence à être également conçue comme étant une scénographie de marque, une griffe pour ainsi dire du loisir qui doit être consommée rapidement, ce qui aide à créer des villes scénographiques qui sont de plus en plus standardisées, uniformisées. Et là, je voudrais appeler votre attention sur le fait qu'ambiance commence à être construite et que nous pouvons, je pense, commencer par là un débat, comment pourrais-je dire, sur le vocabulaire. Je crois que ces deux derniers jours, nous avons eu quelques problèmes de compréhension ou des concepts pour établir les concepts dont nous avons parlé. Et à mon sens, je ne suis pas d'accord avec les idées qui essaient d'établir une entente unique des notions. Je crois que ces notions doivent être distinguées les unes des autres, ce qui n'empêche pas, bien sûr, que l'on ait des débats, des discussions et des idées qui où il n'y a pas d'accord. Mais je crois qu'il faut éclaircir les distinctions. Le problème n'est pas le manque d'entente, mais plutôt le manque d'entente dans le sens de le manque de distinction. Et je voudrais donc proposer cette première distinction. La première, c'est cette distinction ambiente, environnement, et ambiance, ambiance, et peut-être l'idée d'ambientation qui n'existe pas en français, ce serait, disons, mise en ambiance, ce serait cette mise en construction d'ambiance, et là, on pourrait contribuer. Et cette idée pourrait être de plus en plus vue comme une possibilité de rendre ces villes de plus en plus scénographiques et contribuer à ces projets dits de revitalisation urbaine qui ont lieu dans le monde entier comme stratégie générique, standardisante et homogénéisée. Et là, en utilisant de pseudo-identités ethniques et culturelles. Et là, je vais fermer mes parenthèses que je sais qui ont été très grandes. Et pour qualifier ces notions, je pars du principe que quant à ce sujet de la spectacularisation, il y a trois sujets ou thèmes fondamentaux que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Ce serait donc la relation entre corps et ville, les conflits dans l'espace public et la vitalité et intensité de la vie publique des espaces plus populaires et informels, ce que Newton Sims a appelé les espaces opaques. Ces relations entre espace public et image de la ville contemporaine passent aujourd'hui inévitablement par ce processus de spectacularisation qui, à mon opinion, est l'un des plus grands responsables, non seulement pour l'appauvrissement de l'expérience corporelle dans les villes actuelles, comme par le déni des espaces et la recherche d'une élimination ou mise en cachette des espaces opaques des villes qui essayent de se rendre plus médiatiques, spectaculaires ou lumineux. Ce serait donc une façon de nier une partie du sensible et de l'idée de politique. Et là, je vous remets à Jacques-François qui nous a rappelé un académie hier. Et le processus de spectacularisation des villes est donc directement lié non seulement à une pacification sécuritaire, homogénéisante et consensuelle des espaces publics, quant à la réduction de l'espace corporel des villes comme pratique commune, ordinaire, quotidienne, ce qui nous fait repenser la question du corps dans l'espace urbain ou, comme disait une fois encore, Newton Sims, de la corporealité des gens lents, ce que Michel Sertour appelait les pratiquants ordinaires des villes. L'étude de ces pratiques, de ces usages et appropriations de l'espace urbain, normalement informel, conflictueux et qui dissensuel, disons, peut le mener à des chemins de micro-résistance ou déviation de cette logique spectaculaire. En d'autres mots, nous montrer ce que pourrait être un urbanisme Et là, nous y incorporerions la notion d'ambiance et la pensée urbaine plus incorporée. Et c'est dans ce sens que nous avons organisé cette journée aujourd'hui. Et je vais essayer de vous expliquer ce qui a été proposé. En fait, c'est très simple. Vous pouvez le voir par l'organisation de notre journée. Nous avons quatre tables rondes qui parlent essentiellement de trois sujets.
La première, que je vais appeler va présenter le présupposé que les co-implications entre corps et ambiance et faire le rapport entre corps et ambiance et donc il y a une co-implication entre pratique et théorie, entre expériences que nous avons eues, que nous avons reçues, que nous allons recevoir au début de cette journée, parce qu'elle doit être discutée au long de la journée. Elle fait partie de ce débat que nous proposons, non rien, donc quelque chose de séparé. Et c'était un autre genre de réponse, avec des implications entre corps et ambiance, et puis ensuite les implications entre pratique et théorie. La seconde tribune va présenter la séance, le problème que nous allons essayer de résoudre, qui est la pacification des corps et des espaces urbains. Nous aurons donc une intervention qui va parler du silencement, de la mise en silence de ces corps, et puis ensuite l'asepsie de ces espaces. Ensuite, nous aurons une pause pour le déjeuner. J'aimerais vous inviter à 12h30, nous avons une présentation d'un groupe de cirque ici dans l'espace, enfin ici dans l'immeuble, et qui a un rapport direct avec ce que nous parlons, qui s'appelle Intrepida Troupe. Et si on sort, dans l'espace public, nous aurons cette présentation. Et puis ensuite, cet après-midi, puisque nous avons un présupposé et un problème, nous aurons deux possibilités de réponse. La première tribune va traiter le quotidien comme un créateur de ces micro-résistances urbaines qui passent par la résistance du quotidien, et une seconde séance à architecture comme tension de cet espace public. Et elles deviennent alors une seconde possibilité de réponse pour le problème partant de ce présupposé. Et bon, donc c'est ça ce que nous proposons. Et j'aimerais alors inviter les participants de cette séance, trois collègues, ce présupposé. Et là, nous avons corps et ambiance, Fabiana Brito, coordinatrice du programme de danse de l'Université de Bahia. Et aussi, pour parler de ce présupposé, de cette co-implication entre pratique, théorie, expérience et théorie, Isana Guizzo et Cristiane Rodrigues, qui font part de ce groupe compositeur, et j'aimerais aussi citer les autres intégrants de ce groupe qui se trouvent ici présents, Alice Demarche, Cristiane, Luisa Moreira, Federico Parente, et du groupe de Salvador, Clara Passaro, Eduardo Rocha et Mariana Ribas, qui sont ici présentes. Maintenant, je passe immédiatement la parole à Fabiana Brito, qui va nous expliquer notre idée de topographie urbaine. Gente, eles não fizeram programa de Nordeste. Por acaso o cara nos entregou. Eu vi até
eu
ontem.
Falar com
mas eu
depois,
achei que
ela tá achando que é a nossa culpa.
Bom, mon rôle est un peu difficile parce que je vais essayer de vous expliquer. Nous travaillons déjà là depuis 2 ans dans un projet pour essayer de construire cette idée qui se trouve en construction, en test. Et à chaque fois, nous nous apercevons d'autres aspects, d'autres considérations. Il y a là une autre opportunité. Mais notre idée était de présenter cette notion de corpographie comme une proposition, une suggestion d'un outil qui puisse être utile et efficace pour la problématisation de l'ambiance que nous discutons ici. Donc cette idée de corpographie porte dans son nom ces deux notions de corps et de graphie qui nous renvoient à l'idée de cartographie. Donc nous essayons toujours de faire la différence, expliquer cette idée de cartographie du corps, mais une cartographie qui est faite dans le corps et par le corps. C'est une tentative de présenter une notion de cartographie dynamique qui est cette compréhension dynamique et qui puisse expliquer qu'entre l'objet cartographié et la représentation de cet objet, il n'y aurait pas de distance ni de séparation puisque c'est le corps qui est représenté par lui-même, par sa propre formule. Cette notion de corpographie va contenir 3 aspects qui nous semblent très importants pour expliquer de quoi il s'agit. Le premier aspect est qu'on part du présupposé qu'entre le corps et l'ambiance où ce corps se trouve, il y a un rapport de co-implication. Cela semble assez évident, mais c'est un peu plus difficile de comprendre si on essaye de comprendre comment est-ce que le corps va se entrer en relation avec cet environnement où il vit. La façon dont le corps se formule comme tel dessine la corporalité, la façon dont le corps fait ceci, est à travers les relations avec qu'il établit avec l'environnement autour de lui. Donc c'est un premier présupposé, mais je dois ensuite partir pour un second présupposé qui est la perception corporelle est une action corporelle. Elle n'est pas une la perception n'est pas une médiation entre le corps et le monde. La perception est une façon d'agir, d'action du corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Le corps, pour lui résoudre le problème de se maintenir vivant, il a besoin d'entrer en relation avec tout ce qui est autour de lui, et c'est de cette façon qu'il se formule. En se formulant dans ses rapports, il change ce qui est autour de lui. Donc, non seulement il se modifie, comme il va aussi changer ses alentours. Donc, nous parlons aussi d'un genre de rapport qui est une réciprocité simultanée, où il n'y a pas de différence de temps. Il y a une réciprocité, elle est continue, elle ne cesse jamais et elle est constamment réorganisative. Elle modifie, la relation va changer au long du temps. Un autre aspect est l'idée que on parle d'un genre de confiance. configuration où il y a un genre de corporification à travers des rapports établis dans les rapports où il vit. Donc nous parlons de configurations différentes, mais qui se passent en même temps. L'une a besoin de l'autre pour se formuler. On n'arrive pas à comprendre l'espace et le temps comme deux entités séparées dans l'espace et le temps, lointaines l'une de l'autre. Comme elles se co-définent et s'établissent, ce qu'il y a de très important est de comprendre la façon, le rapport qu'elles ont entre elles, et c'est un processus. Et ce processus, dans le cas, nous avons une définition technique, c'est un ensemble de rapports très différents qui, enfin, se passent en même temps. Cette idée technique de processus nous aide à démontrer l'impossibilité de faire le repère d'un genre de configuration, essayant de comprendre comment cette configuration a été faite en regardant sa construction préalable. Car il y a plusieurs processus en même temps, je n'arrive pas à identifier le parcours des éléments qui enfin entraient en rapport les uns avec les autres. L'impossibilité d'identifier ce rapport nous fait que la compréhension de cette notion soit beaucoup plus complexe, car je ne peux pas séparer et isoler les termes pour les comprendre séparément. Et c'est justement à cause de cette notion de processus qui va soutenir le rapport entre corps et environnement, c'est justement à cause de cette notion de processus qu'il est difficile d'accueillir dans cette même réflexion l'idée que théorie et pratique soient deux choses différentes. Non seulement on parle de théorie et pratique de l'espace public, mais la théorie sur l'espace public et la pratique de l'espace public ne sont pas séparées. Pourquoi ? Parce que leur compréhension, la compréhension du lieu et des circonstances où l'on se trouve dépend de la relation qu'on établit avec cet endroit et les circonstances. Et le rapport avec l'endroit et les circonstances dépend des conditions qu'ils vont offrir à votre corps, à leurs propres circonstances et comment ils entrent en relation. Et donc on arrive à une compréhension que ces corpographies ne sont pas une, chacun de nous a une corpographie, mais un processus de construction corpographique au long de toute notre vie. Et dans ce processus de construction, notre corps s'organise constamment avec la réorganisation de l'ambiance, de l'environnement où il se trouve. Donc les ambiances peuvent se structurer. Et hier, nous, comme nous sommes retournés en bus à la maison, la première observation que nous avons pu faire, c'est que si l'on observe dans ce même bus les essais de créer dans un bus une ambiance avec une musique, un verre plus sombre parce que c'est le bus qui sort du métro, ça s'appelle, c'est le métro à la surface et tout le monde est assis, enfin tout le monde est assis confortablement, et néanmoins on peut observer que à chaque groupe de sièges il y a une autre ambiance, ce n'est pas une seule ambiance. Même s'il y a des essais de créer cette ambientation, cet environnement, et ambientation, c'est créer une seule ambiance. Et on peut percevoir ceci dans le métro. Il y a la même musique qu'il y avait dans le bus, mais on n'arrive même pas à entendre la musique. Elle est très élevée, puisque le métro est très... Enfin, le son est très élevé, il y a un son sur un autre son, on n'arrive pas, et vraiment, c'est le vacarme là-dedans. Et là, on crée un autre genre d'ambiance, mais le résultat est complètement différent.
Oui, si, je vois comment on va faire ces choses-là.
Bon, ce sont ces trois aspects pour caractériser la corporographie et où nous avons discuté cette idée de corporographie, c'est toujours par rapport au rapport entre corps et environnement, environnement urbain, et ce rapport entre corps et ville. Ce que l'on va discuter et percevoir, c'est pourquoi le corps a un rapport avec cet environnement qui le formule et est formulé, la corporalité de chacun de nous est un résidu de la mémoire des relations que ce corps a établies. Donc, nous pouvons regarder chacune de nos corporalités et reconnaître dans cette corporalité les résidus des relations que notre corps a établies au long de la vie dans tous les environnements où il a déjà été et où il a existé. Mais il y a des résultats, des conséquences de ces relations. Donc, cette stabilisation que d'autres rapports que nous établissons vont configurer ce que l'on appelle un standard, une norme corporelle qui correspond au standard, aux normes de réflexion que notre corps arrive à produire. Donc, c'est encore une dimension de la difficulté de séparer théorie et pratique. Car la façon d'agir et de comporter se trouve absolument connectée à la façon de penser. Ils se formulent de façon corporelle. Donc c'est une idée assez récente de certains neuroscientifiques qui travaillent avec des études de perception, surtout Alvin Noé, et aussi il y a un Français qui est Alain Berthaud, qui parle de cette compréhension de la perception comme action corporelle. Bon, voilà, je crois que c'est là. Et on va comme ça démontrer cette équivalence de discussion dans une autre discussion. Et seulement pour compléter, pour parler de cette idée de corporographie, l'idée, c'est que la ville peut être perçue comme cet ensemble de conditions interactives et le corps va établir la synthèse de cette interaction et va décrire dans sa corporéité ce que l'on appelle la corpographie urbaine. La corpographie serait une cartographie corporelle qui part de l'hypothèse que l'expérience urbaine est inscrite dans plusieurs échelles de temporalité dans le corps de celui qui va l'expérimenter et la définit ce corps, même si involontairement. L'idée de corpographie propose d'articuler ces processus qui se trouve impliqué dans ce rapport du corps avec l'environnement, la ville, qui va registrer et réorganiser la synthèse de ces relations et établir les nouvelles conditions et continuités de ces relations dans ce processus. En synthèse, au-delà de ces corps qui vont s'inscrire et contribuer à la formulation du tracé des villes, la mémoire de ces rues et de ces espaces publics vont être inscrits et vont contribuer à la configuration de nos corps. Bon, c'est ça. Et maintenant, les autres intervenants vont parler de notre expérience et j'aimerais vous parler aussi que, puisque nous pensons que théorie et pratique ne sont pas dissociées, il faut qu'on ait clairement en vue que la discussion sur l'expérience que nous avons faite à CineLunge qu'on a fait le lundi ne va pas se limiter à cette tribune. Nous voulons continuer à discuter cette expérience au long du jour et non pas de façon segmentée. Maintenant, je passe la parole à nos autres intervenants. Bon, bonjour. J'aimerais vous dire que nous représentons un groupe et nous avons déjà dit le nom des autres intégrants. Et nous voudrions aussi parler. Nous ne comprenons, nous voyons cette expérience comme un exemple, n'est pas un exemple de ce que l'on fait, mais c'est vraiment cette discussion, ces discussions et un autre support pour ce que l'on fait. Donc nous la comprenons de façon transversale. Et nous allons expliquer très simplement ce que nous avons fait le lundi. Pour ceux qui n'ont pas été présents, on va vous montrer un vidéo de ce que l'on a fait. Et puis ensuite, nous allons parler de ce qui a servi comme support de notre expérience. Et cette expérience a consisté à un dispositif pour la ville. Ce n'est pas un workshop pour le séminaire. Nous l'avons commencé à travers un travail de corps et de certaines personnes qui ont fait le travail avec nous pour provoquer un état de corps, un état opportun de corps pour commencer cette expérience. Puis ensuite, nous avons proposé dans deux environnements simultanés, nous nous sommes partagés en deux groupes. Un a été ce que à Cine Lounge en face du restaurant Amarelinho sur le square, et une autre expérience, ce que nous avons appelé le dos de la Cine Lounge.
Nous avons d'abord proposé un tapis que nous avons appelé chaud. En fait, nous avons pris les dessins qui existaient déjà sur la chaussée et nous y avons passé de la chaux ou enfin de la craie. Et nous avons essayé de dévier les passants. Nous sommes inspirés sur l'idée de la pluie, quand on a des flaques, les gens se dévient parce que les gens placent leur regard sur le sol et doivent se dévier des flaques. Donc, c'est une autre façon de marcher. Après de passer par cette expérience, les piétons passeraient directement sur un jeu à marelle. C'est le jeu de la marelle que nous avons proposé. Et là où il y a le paradis, dans le jeu de la marelle, nous avons posé la question ville merveilleuse, cidade de maravilhosa, que c'est à tous les gens dont les gens connaissent Rio. Et dans la partie de l'enfer, nous avons mis ville dangereuse. Donc c'était une question également. Et nous avons sur les points proposé des quartiers ou des quartiers qui sont également des équipes de football comme Botafogo ou Flamengo. Et pour le tracé des autobus, nous avions 4, 5, 6, les gens l'appellent 4 ou 5 ou Meyer parce que ça ressemble au même sens et c'est un quartier de Rio métropolitain. Nous avons donc essayé d'attirer l'attention des piétons sur certains points de la ville. Je vais vous passer la vidéo pour que vous puissiez ensuite faire des commentaires. petit, j'essayais toujours de surpasser mes camarades. C'est ce que j'essaie de faire ici. On avait 1500 élèves et il fallait qu'ils jouent le football. Alors il y avait des gens qui ne voulaient pas, ils voulaient jouer du football, il n'y avait pas de football. Les gens qui voulaient aller faire la natation, il n'y avait pas de natation. Et quand il pleuvait. Et là, c'était le terrain était couvert également, alors ça faisait trop chaud. Alors on allait faire quoi? S'arrêter et se regarder en face les uns les autres. Alors on faisait des jeux, on jouait à la marelle, je ne sais pas quoi moi. Non, les week-ends, on signait un accord pour pouvoir utiliser le terrain. Non, ce qu'on fait, on va au Maracana, au parc de Flamengo, on va à la plage. Mais on n'avait pas l'argent parce que les autobus n'étaient pas gratuits pour les enfants comme maintenant. Mais avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on entrait par derrière, quand les passagers descendaient, on entrait par derrière pour ne pas devoir payer parce qu'on était pauvres. Ça a été un moment privilégié d'une expérimentation qui a commencé il y a un mois chez IR, et c'était une invitation pour pouvoir commencer à mettre en œuvre ce dispositif, et je pense que cette expérimentation va se prolonger. Il y aura bien sûr une fin à la fin de ce colloque. Je pense que nous sommes donc encore ici en train de vivre cette expérience. Cette expérimentation. Je vais vous parler un peu de nos hypothèses qui ont servi de base à notre action, à notre activité depuis le début jusqu'à maintenant en fait. Inclus en ce moment-ci présent. Nous sommes partis d'une position initiale de ce que notre travail devait être orienté par une perspective multidisciplinaire ou transdisciplinaire, et ça n'a pas été un choix aléatoire, c'était une chose qu'on a décidé. Je suis psychologue comme je vous ai dit, et je voulais vous montrer que la construction de ce travail impliquait participation d'architectes, de professeurs de danse. Celui qui apparaît tout au début, on nous voit filmer en train de courir un peu. Il y avait un professeur de danse qui faisait là un travail avec le corps et qui, permettait de nous préparer pour la participation plus tard. L'idée de transdisciplinarité que nous utilisons ici sert à faire une opposition ou à se dévier d'un schéma plus traditionnel ou plus cartésien, de faire un abordage des connaissances ou d'aborder des objets, de produire des connaissances. La transdisciplinarité n'est pas exactement une méthode. Nous pensons que c'est une attitude critique face au monde et à la vie. C'est pour ça que c'est différent de la méthode cartésienne où l'on part de l'hypothèse, l'on part d'un protocole rigoureux, pardon, pour pouvoir faire des interventions et acquérir des connaissances. Avec l'idée de transfinalité ou transdisciplinarité, nous voulons mettre en question deux problèmes. D'abord, la relation entre la pratique et la théorie, et deux, la relation entre sujet et objet. Nous allons commencer par la mise en question de la pratique et de la théorie, que Fabienne a déjà en fait commencé à mettre en question. Sous cette perspective transdisciplinaire, la pratique n'est pas une conséquence de la théorie, ce n'est pas une application de la théorie. Dans cette perspective, ce qu'il y a, c'est que la relation est un échange de rôles permanent. Il n'y a pas une pratique qui mène à la pratique ou de pratique qui ne mène pas à la théorie. Elles s'entraident, elles s'enchaînent l'une à l'autre. Et je vais, dans ce processus de construction de cette expérience, on a parlé beaucoup pour arriver à cette expérimentation elle-même. Et nous allons en parler. Quand j'étais avec le groupe, je leur ai raconté une expérience que j'ai vécue dans les années 90, quand je travaillais ici, tout près du lac de la Calioque. Et je travaillais dans un bureau. Et tous les jours, je descendais à midi. Je passais par la place de la Calioque. J'allais jusqu'à Uruguayen, la rue Uruguayen, pour pouvoir déjeuner, comme tout le monde en fait, comme tous ceux qui travaillent ici en ville le font. Alors ma vie quotidienne s'inscrivait dans une certaine temporalité chronologique jusqu'au jour où une chose inattendue m'est arrivée. C'était un jour où j'avais des chaussures qui étaient un peu entrouvertes en bas. Il y avait la partie de bas qui n'était pas très bien. J'ai traversé la place, un type qui était assis et je m'en étais pas rendu compte. Il a tenu mon pied, il a pris mon soulier, il l'a collé, il l'a mis en bon état. Je ne sais pas quoi en faire, quoi lui dire, ni comment réagir en fait. Et là, je suis donc passée par une expérience nouvelle et bien sûr, ensuite, j'ai dû négocier parce qu'il m'a demandé à bien sûr être payé et à bien le payer en fait. Et j'ai dû faire une négociation pour arriver à un prix. Il fallait que j'aie mes souliers de retour parce qu'il fallait encore que j'aille déjeuner, il fallait qu'il me les rende. Alors, je voudrais parler de cette expérience parce que cette pratique dans laquelle j'étais impliquée a rendu possible une conversation avec le groupe où il y a eu un enchaînement entre la théorie et la pratique. Et dans notre conversation, nous nous sommes rendus compte que ce qui était en jeu dans cette expérience par laquelle j'étais passée était en fait deux concepts grecs anciens. D'abord, c'était chronos. Et l'autre, Kairos. Le chronos, c'est le temps qui est mesuré, qui est bien démarqué, le temps de la discipline, comme disait Michel Foucault. Et le Kairos, c'est le temps opportun, l'occasion, si on veut, c'est le temps opportun qui a surgi souvent dans notre expérience et qui, en même temps, qualifie, parce que c'est dans cette expérience de Kairos, de ce temps immédiat auquel il faut réagir, qu'on ne s'attend pas, que de nouveaux sens sont construits. Et c'est à partir de cette alternance entre la pratique et la théorie que nous avons construit notre dispositif, notre expérimentation qui a privilégié, moi c'était notre tentative, créer un dispositif qui puisse privilégier le kairos et non pas et dans un autre sens, ou pour s'opposer à Chronos, qui, comme nous le savions, nous vivons en ville, nous savions que le centre-ville est essentiellement marqué par la forte présence du temps mesuré. Ça, c'était mon premier point à soulever. Le deuxième, le concept de transdisciplinarité qui va mettre en question la relation entre sujet et objet. Et dans cette perspective, la production de connaissances ne voit pas et qui est un sujet donné a priori, qui peut connaître un objet donné a priori, qui est là justement pour être connu. Le sujet et l'objet sont, existent donc avant l'expérience. Ils sont antérieurs et dans le concept de transdisciplinarité, le sujet et l'objet surgissent de l'expérience. Alors quand nous mettons ensemble la relation d'alternance entre pratique et théorie et la relation entre sujet et objet, qui surgissent ensemble d'une expérience réalisée, d'actes et de pratiques qui sont mises en œuvre, nous créons une nouvelle perspective de construction de connaissances et de réalisation d'interventions qui, dans notre cas, a été justement la réalisation de cette expérimentation mise en pratique en ville. Mais cela implique que notre participation, comme nous ne sommes pas des sujets neutres qui construisent des méthodes rigoureuses et ensuite vont vérifier si tout était là-bas où on a décidé de mettre en œuvre ou pas, cela nous implique ou nous imbrique dans ce processus éthiquement et dans la pratique, et cela nous mène à prendre une position face à nos actions. Et quand je dis que cela nous convoque et nous fait participer, ou nous demande une participation, une opinion dans cet abordage transdisciplinaire, nous courons toujours des risques. Et c'est exactement ce qui a surgi dans notre expérience. Parce que nous avons fait une intervention au centre-ville ou avec des gens où, à ce moment-là, quand nous l'avons fait, nous souffrions nous-mêmes des interventions de part de la ville dans le sens ample. Je vais passer la parole à Ir parce qu'elle va vous parler en détail de notre position éthique et politique par rapport à tout cela et comment nous avons pu délimiter tout cela par rapport à l'expérience que nous avons mise en œuvre. Voilà. Je vais essayer de parler rapidement pour ne pas prendre tout votre temps. C'est parce que nous ne sommes pas neutres quand nous agissons que nous voulons justement marquer notre position politique. Nous sommes donc partis d'une question que nous avons mise transversalement dans notre vie journalière, dans toutes les questions, dans notre vie d'aujourd'hui. Nous sommes partis d'une phrase de Sully Romnick, de cartographie sentimentale, cartographie sentimentale, que je vais vous lire. Outrepasser plus spécifiquement une caractéristique propre à ce genre de subjectivation actuelle qui consiste en des nœuds, la construction de notre vulnérabilité aux forces du monde dans leur alternance, et une condition pour que l'autre ne soit plus seulement un objet de projection d'image préétablie, pour devenir une présence vivante avec laquelle nous construisons nos territoires existants. Donc à partir d'une mise en application de cette vulnérabilité dont nous parlons, non pas cette vulnérabilité du danger qu'il nous faut éviter parce que la ville est dangereuse ou des personnages vulnérables qu'il nous faut mettre en prison ou tuer, mais d'une vulnérabilité qui est rendue, qui est positivée, rendue positive dans le sens où nous faisons réellement notre nous essayons de mettre d'appliquer nos forces. Cela, c'est une ouverture du corps dans le sens où le corps va être disponible au changement. La vulnérabilité, non seulement donc comme à Paris, mais justement comme une stabilisation de ce qui est institué. Je crois qu'il est important d'utiliser cette parole en comprenant l'espace et le corps comme étant des champs de force, et en agissant, nous allons parier sur la vulnérabilité comme étant une possibilité de déstabilisation des forces instituées pour pouvoir créer un autre état nouveau. Mais être vulnérable, c'est un risque pour le chercheur, parce qu'il est vulnérable dans cette corrélation de forces. Je vais vous donner un exemple qui est simple. Quand on a joué à la marelle,
derrière la Cinélande, quand on a monté le jeu de la marelle, nous avons parlé de l'expérience. Et la personne qui a fait cette interview à la fin nous a parlé, nous a dit que vous jouiez dans votre immeuble, donc il n'y avait pas de marelline, de jeu de marelle. Donc c'est comme il se dénominait personnage de la rue et qu'il pouvait jouer à la marelle. Et nous étions du playground, enfin des immeubles, c'est une expression brésilienne qu'on emploie à Rio de Janeiro. Pour ceux qui sont d'une classe moyenne, enfin plus élevée, qui ne jouent pas dans la rue et qui vivent, qui habitent des immeubles, et ils ne jouent pas dans la rue, mais dans l'immeuble, dans le playground. Et donc ceux qui appartiennent ou non, et nous avec nos visages, et c'est justement nous appartenions à l'immeuble, au condominium. Et là, nous avons dû accepter cette différence. Oui, il y a une différence entre nous. Nous sommes vulnérables. Mais cette différence n'existe pas pour créer cette distance. Il n'y a pas de dialogue. Moi, toi, tu es de la rue et moi, je suis du play. Mais justement, parce qu'à partir de cette différence, on puisse produire un élément commun. Et le lien qu'on a retrouvé était justement le jeu de la marelle. Car l'expérience de sauter, de s'abaisser, de s'équilibrer, chacun de nous avait cette expérience en commun. Cette expérience était commune à nous tous. Et c'est de cette expérience que nous avons pu créer un commun. Qui ensuite... qui avait été faite avec ses pantoufles qui étaient de flamingo, nous avons pu ensuite nous asseoir ensemble dans le bar et enfin échanger des expériences de nos vies. Et ceci a produit une différence en chacun de nous. Donc notre pari politique est justement la vulnérabilité comme une possibilité d'ouvrir le corps pour produire une rencontre, et avec la rencontre, les différences, et avec plus de différences, plus de possibilités de choix. Merci. Je voudrais vous rappeler, cette discussion sur l'expérience ne s'achève pas ici. Nous allons continuer au long du jour. Ensuite, nous devons revenir à ce débat. Et maintenant, j'ouvre la séance. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. Nous avons encore une demi-heure pour discuter ce sujet. Je ne sais pas s'il y a un micro là, parce que sinon... question. On attend la question. Si vous posez la question, je la traduis.